Alors bonjour. Tout d'abord, on fait un test. Est-ce que vous entendez bien?
Oui.
Oui. Bon, puis il faut pas que je dépasse 40 minutes, qu'on m'a dit. Alors, je regarde la montre, là, il est 53. Alors, faut pas dépasser le temps à cause des enregistrements. Et puis, on fera une petite pause aussi pour chanter au cours de la causerie de la conférence. Bon. Alors, le thème qu'on m'a donné aujourd'hui, c'est de parler du don de conseil, mais à partir d'un extrait de l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 17 à 21, que je vais proclamer dans quelques minutes. Alors, comme Jean-Claude disait, il y en a qui sont nouveaux. Moi, je suis nouveau, ben, je suis pas nouveau, mais bon. Mais quels sont ceux qui sont, ils viennent pour la première fois, juste pour savoir? Bon, OK, bienvenue, en tout cas. Alors, c'est bon de le savoir, là, de sorte qu'on puisse vous contacter puis parler avec vous. Bon, alors, c'est vrai ce que Jean-Claude disait, c'est que ce soit un esprit de famille. Moi, je suis au foyer de charité, et c'est la même chose aussi au foyer. On veut que ce soit un esprit de famille. Et c'est bien que ça me fait chaud au cœur quand les gens me disent, oh, le foyer, c'est ma deuxième famille. Ah bon? C'est qu'on a, si on peut dire, réussi en un sens, on a toujours à continuer, à créer cet esprit de famille. Et le pape Jean-François disait que dans tout organisme, dans tout lieu d'association, de mouvement, il faudrait injecter un esprit de famille. Alors, dans Foi et Partage, injecter un esprit de famille. Alors, je trouve ça heureux, parce que c'est ça que le pape François nous demande, qu'est cet esprit de famille. Alors, donc, c'est ce que je nous souhaite pour aujourd'hui. Alors, j'ai préparé une réflexion, donc, sur ce don de conseil à la lumière du passage de Matthieu, chapitre 10, les versets 17 à 21. Pour le situer, ce passage-là, parce que c'est toujours bon de regarder le contexte. Or, dans l'Évangile de Saint Matthieu, alors, il y a une expression qui revient 5 fois. L'expression est la suivante.
Tu as mis ton micro.
Non, tu n'entends pas, toi.
Non, tu n'entends pas en arrière.
Pourtant, c'est bien ouvert. Ah, ben non, c'est... Mais comment ça fait qu'il est rouge?
Ah ben, là, il nous joue un tour, là.
Bon. On entend bien, mais il n'enregistre pas.
Ouais, c'est ça. Bon, OK.
Ben, il faudrait aller voir un médecin en technique. Ça ne marche pas. Bon, alors, on va faire mettre l'autre micro, peut-être?
Non, je vais m'organiser pour ben là, le transmettre après.
Tu vas le transmettre après?
Moi, je vais le transmettre.
OK, bon. Bonjour, bienvenue. Alors, on va mettre ça dans le contexte. Alors, il y a une phrase qui revient souvent dans l'Évangile de Matthieu, qui revient 5 fois. « Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, il... » Puis là, on continue. « Il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, il continua sa route. » Bon, ça arrive 5 fois dans l'Évangile de Matthieu, cette expression-là. On a les chapitres 5, 6, 7, c'est le discours sur la montagne, avec lequel discours on commence avec les béatitude. Et il advint quand Jésus eut donné, eut fini, terminé ce discours, il, OK? Alors, quand on arrive au chapitre 1, donc, ça, 5, 6, 7. Alors, 8, 9, 10, ça fait un bloc. Puis à la fin du chapitre 10, au début du chapitre 11, on recommence encore avec cette même expression. Et il advint quand Jésus eut terminé de donner ses instructions, il continua sa route. Ah bon? Donc, ça fait un bloc. Le chapitre 9, 10, 11, ça fait un bloc. C'est quoi ce bloc-là dans l'Évangile de Matthieu? C'est que 9 et 10, c'est l'action apostolique de Jésus. Il va faire des miracles, il va faire des guérisons. Chapitre 11, c'est quoi? C'est maintenant les disciples qui sont envoyés en mission. 9 et 10, c'est Jésus qui est en action, qui fait des miracles. Chapitre 11, maintenant, il envoie ses disciples. Puis là, maintenant, je vous donne des consignes pour la mission. OK? C'est dans ce contexte-là que nous avons ce passage du chapitre 10, les versets 17 à 21. Ça va pour ça? Alors, je fais lecture maintenant de ce passage. C'est la mission des 12. Méfiez-vous des hommes, dit Jésus. Ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Acclamons la parole de Dieu. Alors, Jésus envoie ses apôtres en mission. Là-dedans, il y a 4 points que je voudrais faire ressortir. Tout d'abord, il y a un fait. Il y a un fait. Jésus, en gros, les hommes vont vous faire du mal. Les humains vont vous faire du mal. Hein? Ça peut être des chefs religieux. Il fait référence aux synagogues, aux Sanhédrin. Ça peut être des chefs civils. Hein, au plan civil, les gouverneurs, les païens. Et aussi, en troisième lieu, ça peut être au cœur de la famille. Le frère livrera son frère, le père, etc. Vous voyez? Donc, il y a un fait qui est établi, la souffrance des disciples de Jésus. Souffrance qu'ils vont rencontrer de la part de chefs religieux, soit au plan civil, ou soit même au cœur de la famille. Ça va pour ça? Premier point. Deuxième chose, d'où vient cette souffrance? Cette souffrance viendra à cause de Jésus. Ça, c'est le deuxième point. À cause de Jésus, il y aura de la souffrance. Jésus nous dira, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je vais m'arrêter. Alors, donc, un fait, à cause de Jésus, souffrance à cause de Jésus, mais pour rendre témoignage, troisième point, pour rendre témoignage. Ce sera l'occasion de rendre témoignage de moi, dit Jésus. Alors même que vous aurez des souffrances, soit à cause de chefs religieux, soit à cause au plan civil, ou soit dans votre famille, eh bien, ce sera une occasion de rendre témoignage de moi. Et le quatrième point que je vais faire ressortir, c'est qu'il y a deux attitudes que Jésus nous rappelle dans cet évangile-là. D'abord, il nous dit « Ne vous inquiétez pas ». Donc, faire confiance. Hein? « Ne vous inquiétez pas », une première attitude. Et deuxième chose que Jésus va nous dire dans cet évangile, faites confiance, l'Esprit de votre Père parlera en vous. L'Esprit de votre Père va être là pour vous aider quand vous allez rencontrer cette souffrance. Que ce soit au plan religieux, au plan civil, au plan familial, cette souffrance que vous allez rencontrer à cause de moi, c'est une occasion de rendre témoignage. Faites-vous-en pas, faites confiance, l'Esprit Saint, l'Esprit de votre Père sera avec vous. Ça va pour ça? Vous comprenez les quatre dimensions qui sont présentes dans cet évangile. Et le don de conseil, on le retrouve justement quand Jésus va dire « L'Esprit de votre Père parlera en vous. Il va vous conseiller. » Il va vous conseiller. Bon. Alors, j'ai vu sur votre feuille que vous avez déjà abordé un don. Le don de science. Alors, c'est celui-là que j'ai vu sur la feuille. Alors, les fameux dons du Saint-Esprit, il y en a combien? Il y en a sept. Ça nous vient d'où, ça? Ça nous vient d'un livre de l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe, chapitre 11, les versets 2 et 3, où il est dit au sujet du Messie, et lequel Messie? On sait maintenant que c'est Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, esprit de sagesse, de science, de connaissance. » Et là, on a les sept dons du Saint-Esprit qui sont mentionnés au livre d'Isaïe et que nous, comme chrétiens, en relisant ces textes de l'Ancien Testament, on dit « Ah, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, quand il vient avec ses cadeaux. Hein? » Et quels sont ces cadeaux? Il y en a sept. Hein, les sept dons du Saint-Esprit. Une petite anecdote que des fois je rappelle. Quand j'ai un de mes frères qui a été baptisé, j'avais 8 ans. C'était le septième des gars. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans notre tradition? Quand c'est le septième des gars, il a un... C'est une septième de fille, elle a un don. Alors, moi, je me rappelle encore que quand est arrivé le temps du baptême, j'étais petit gars alors, hein, j'avais 8 ans, 7-8 ans à peu près. Des fois, dans notre tête d'enfant, on emmagasine bien des choses. Et là, je me rappelle qu'une de mes belles-sœurs, qui était la porteuse, parce qu'à ce moment-là, on avait les porteuses, vous vous rappelez? Alors, et là, ma belle-sœur était porteuse. Et là, comme c'était le septième des gars, elle dit, je ne sais pas quel don il a. Si j'avais fait un petit peu de théologie à l'époque, mais là, ça fait 7 ans, on ne fait pas beaucoup de théologie, je lui aurais répondu, il n'en a pas un, il en a 7. Parce qu'au baptême, on a reçu le Saint-Esprit, puis on a tous les dons du Saint-Esprit. Le problème, c'est que les dons du Saint-Esprit ne sont pas très bien nourris. Hein? Ils ne sont pas très bien nourris, si bien qu'il y en a qui ne sont pas très, très développés. Alors, c'est heureux que, durant l'année, vous vous appropriez un peu plus. De quoi il s'agit quand on parle des dons du Saint-Esprit? Alors, quand je vais parler aujourd'hui du don du conseil, ne pensez pas que c'est uniquement pour certaines personnes, le don de conseil. Le don de conseil, ce n'est pas pour les conseillers spirituels, les directeurs spirituels. Hein? Le don de conseil, il est répandu en chacune d'entre nous. Il a le don de conseil. Mais est-ce qu'on a demandé à l'Esprit-Saint de faire grandir ce cadeau qu'il nous a donné? Vous savez, c'est un peu comme des cadeaux, justement. Cette semaine, il y en a qui me disaient, hein, il avait fait des cadeaux à ses enfants. Les enfants prenaient le cadeau, pouf, ils ouvraient la boîte, puis ils mettaient ça de côté. Ça arrive, ça. Hein? On peut recevoir des cadeaux, puis ne pas les développer, ne pas les utiliser, ne pas jouer avec, ne pas... Hein? Eh bien, on a reçu le don, le cadeau du don de conseil. Alors, on va l'approfondir un petit peu plus. Alors, je reviens sur les 4 points que j'ai mentionnés. On va regarder le don de conseil pour la fin. Alors, donc, un fait, à savoir souffrance qui nous arrive au plan religieux, civil ou familial. Si on regarde dans les évangiles, quand Matthieu écrit son évangile, c'est vers les années 85. Donc, à peu près 55 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Les communautés chrétiennes vivent des choses difficiles à cause de leur foi. Au plan religieux, juste donner un exemple. Hein? Ils vont souffrir au plan religieux. Prenez Étienne. Qui va le mettre à mort? C'est le Sanhédrin. Alors, voyez, les premiers chrétiens, Saül de Tarse, puis tout cela, qui va les persécuter? Ce sont encore les Juifs, à ce moment-là, qui vont les persécuter au plan religieux. Donc, les disciples de Jésus rencontrent souffrance à l'époque. Au plan civil, c'est la même chose. Paul va comparaître devant le gouverneur romain, Festus, et puis va être amené prisonnier à Rome par les Romains, voyez? Donc, c'est au plan civil que lui vient cette souffrance. Et puis aussi, vous avez dans les familles, à l'époque où Matthieu écrit son évangile, c'est des choses qui existent, que des enfants disent, « Eh bien, mon père est chrétien, il est baptisé, et on le faisait mettre à mort. » On a eu cette semaine la fête de Sainte-Cécile. Sainte-Cécile, vierge et martyre. Alors, elle était ce qu'on appelle une patricienne dans la société romaine. Elle était dans la high class, dans l'aristocratie. Puis elle a marié, on l'a placée en mariage avec un nommé Valère. Mais Valère était un païen. Et là, Cécile, le soir des noces, elle a dit à Valère, « J'ai un secret à te partager, mais il ne faudrait pas que tu le dises. » Alors, c'est quoi ton secret? Je te promets dans l'amour que je ne te le dirai pas. Et là, Cécile a dit à Valère, « Je suis baptisée. Je suis chrétienne. » Valère était païen. Mais il aurait pu la dénoncer, puis elle se faisait tuer. Mais effectivement, Valère va se convertir, va se faire baptiser, et tous les deux seront mis à mort. Mais voyez, ça existe à l'époque. Bon, je voudrais faire remarquer que cette souffrance que les disciples de Jésus rencontraient au moment au début de la communauté chrétienne, ça existait dans l'histoire de l'Église et ça existe encore aujourd'hui. Comment il y a la souffrance qui vient à cause de la dimension religieuse, que des disciples de Jésus sont persécutés à cause de la dimension religieuse. On a juste à regarder. J'ai lu certains témoignages d'une personne qui se convertit au christianisme, devient catholique, qui est musulmane. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de fuir parce que là, elle va en subir persécution de la part des musulmans à ce moment-là. Voyez, c'est encore très présent aujourd'hui. Au plan civil, comment il y a une souffrance qui arrive actuellement par certaines lois qui sont préconisées, votées dans nos sociétés. Il y a une souffrance au plan civil. Vous voyez, et je n'ai pas besoin d'en nommer beaucoup, on en connaît suffisamment. Et c'est la même chose quand dans l'Évangile, Jésus dit « on va livrer le frère contre le frère, le père, l'enfant ». Il y a des souffrances aussi au niveau familial. Justement, il y a peut-être un mois, j'ai rencontré un de mes confrères, un prêtre de la même communauté que moi, missionnaire des Saints Apôtres, et ses parents sont juifs. Mais ce sont des juifs qui se sont convertis. C'était complètement coupé avec la famille. Quand ils sont devenus chrétiens, catholiques, la famille n'a plus voulu avoir de lien avec eux. Vous voyez? Alors, donc, ce que Jésus dit dans l'Évangile aujourd'hui, ces souffrances que ses disciples vont rencontrer, soit au plan religieux, soit au plan civil, ou soit au plan familial, c'est encore présent aujourd'hui. OK? C'est juste pour prendre conscience que l'Évangile, c'est pas juste des histoires passées, c'est vraiment présent dans notre aujourd'hui. Et on a juste à regarder nous autres-mêmes, dans nos familles. C'est pas évident. Vous diriez à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je suis allé à la foi partage. On a eu un enseignement sur l'Évangile. On a prié ensemble. Ouh! Il y a des membres de vos familles, peut-être, qui vont dire, oh! Tu crois encore à ces affaires-là, toi? Eh ben oui. On peut se moquer de nous à cause de notre foi. Vous voyez, ça existe encore aujourd'hui. Puis vous avez des souffrances très grandes dans des familles actuellement à cause de la foi. Bon, donc premier point, ça va pour ça. Jésus qui dit, il présente un fait, à savoir la souffrance de ses disciples qui vient du plan religieux, civil ou familial. Deuxième point, on va souffrir, mais pourquoi? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Jésus va nous dire dans l'Évangile, c'est étonnant cette parole, on l'a eu il n'y a pas tellement longtemps, « Je suis venu apporter non pas la paix, mais la division. » On dit, « Mais hein? Jésus est venu apporter la division? » Ça n'a pas de bon sens. Puis tantôt à la messe, qu'est-ce qu'on va dire? « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. » Alors, quoi? Il apporte-tu la paix ou il apporte la division? C'est qu'en fin de compte, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Certes, il veut la paix, il veut l'unité, mais il est bien conscient que si on prend parti pour Jésus, on va rencontrer division. Si on prend parti pour Jésus, à un moment donné, on va rencontrer opposition. Alors, c'est inévitable, voyez? Et donc, c'est à cause de Jésus. Et vous avez un beau témoignage de saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Saint Paul, il va dire, « Quand j'étais pharisien, fils de pharisien, hein, j'avais toutes sortes d'avantages liés à ma position dans la loi juive. Mais tous ces avantages, maintenant, je les considère comme désavantageux à cause de mon Seigneur Jésus, à cause du Christ Jésus. » Comment? C'est à cause de Jésus. Hein? Vous voyez, Jésus promet, nous promet pas la vie facile, tout cela. Nous sommes appelés à rendre un témoignage au cœur même de la souffrance à cause de notre appartenance à Jésus. Hein? C'est à cause de toi, hein, Seigneur Jésus, hein, que je me prononce pour toi. C'est à cause de toi. Que ce soit toujours à cause de Jésus. Et c'est très beau tantôt, la prière que nous avions. Alors, c'est toujours, si vous remarquez, ça commence toujours avec le nom de Jésus. Jésus, merci de nous aimer. Jésus, fais-nous entendre ta voix. Jésus, fais-nous goûter ta présence. Jésus, tu nous appelles jamais seuls. Jésus, tu nous connais, conduis-nous. Vous voyez, toujours référence à la personne de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, sinon par le nom de Jésus. Ah, vous voyez? Donc, Jésus nous rappelle, si on rencontre souffrance, eh bien, c'est à cause de notre foi en Jésus. Et approfondir cette relation avec Jésus, l'approfondir, hein, découvrir combien nous sommes aimés de lui, hein, pour, à cause de cet amour qu'il nous porte, bien, je vais m'engager pour lui. Hein, je vais oser pour lui, parce que je sais que je suis aimé de lui. Et souvent, quand je prêche les retraites, je dis, la plus grande grâce à demander, c'est cette grâce, cette assurance d'être aimé de Jésus, quelles que soient nos situations. Marthe Robin avait cette belle parole que j'aime beaucoup, « Montrer Jésus aimé pour qu'il soit Jésus... » Excusez, « Montrer Jésus aimant pour qu'il soit Jésus aimé. » Vous voyez? Montrer Jésus aimant pour qu'il soit Jésus aimé. Si on montre un Jésus qui est sévère, qui nous juge, qui va nous taper dessus, qui va nous punir, il ne sera pas Jésus aimé. Il faut montrer Jésus aimant. Un Jésus qui nous aime, qui donne sa vie pour nous. Montrer Jésus aimant pour qu'en retour, il soit aimé. Et donc, hein, tout cela à cause de Jésus, mais d'un Jésus que je présente comme le Jésus aimant, pour qu'en retour, mes frères et sœurs humains puissent l'aimer. Voyez? Donc, ça, c'est un aspect de l'Évangile. Troisième point, alors, pour rendre témoignage. Alors, Jésus nous dit, ce sera une occasion, à ce moment-là, à travers la souffrance que vous allez vivre à cause de moi, ce sera une occasion de rendre témoignage, hein, de rendre témoignage. Vous savez, c'est facile quand on est dans un événement heureux de rendre témoignage. Quand ça va bien, c'est facile de rendre témoignage. Mais quand on vit un événement difficile, éprouvant, eh bien, rendre témoignage de Jésus, de Dieu qui nous aime, hein, ouf, ça demande encore davantage. Mais nous sommes appelés, voyez, à rendre témoignage de Jésus au cœur même des souffrances que nous pouvons vivre et des difficultés qu'on peut rencontrer. Des fois, je donne cet exemple, puis encore pas tellement longtemps, j'ai rencontré une personne à un cancer très avancé, et qui est maintenant décédée depuis peut-être un mois. Et puis, elle est venue à la maison, puis elle a pris le repas avec nous. Et puis, les gens disaient, au propos de cette personne, comment elle avait l'air sereine, pacifiée dans sa maladie. Et là, ceux qui étaient à table, après cela, me disaient, mais c'était beau de voir cette femme, vous voyez. Rendre témoignage quand on est en bonne santé, que tout nous va, ça va, c'est facile de témoigner de ma foi. Mais quand arrive un événement difficile, malheureux, eh bien, rendre encore témoignage de Jésus. Avoir confiance à ce moment-là encore en lui. Alors, et c'est cela, vous savez, quand dans nos différents milieux, que ce soit au plan au niveau religieux, civil ou familial, eh bien, ça peut être l'occasion de rendre témoignage de notre foi. Vous savez, prenez seulement ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être que ce soir, quelqu'un va dire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On peut passer un peu sous silence en la journée qu'on a vécue ensemble. Comme on peut, si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça peut être une belle occasion de dire, OK, si tu me demandes qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, je vais rendre témoignage de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et donc, aller un petit peu plus loin, tout simplement que de dire, sur la fin de l'après-midi, je suis arrêté au magasin acheter telle affaire. On peut s'en tenir à ça, mais non, ça peut être l'occasion de rendre témoignage, tout simplement, de partager de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et même dans les situations difficiles, on voit ça chez des martyrs, entre autres, qui vont prier pour ceux-là même qui les mettent à mort. Quel beau témoignage de charité et d'amour. Prenez Thomas More. Thomas More, qui est un père de famille, qui va être mis à mort par le roi Henri VIII. Et Thomas More, qui a cette belle... écrit une lettre à sa fille en disant, « Je sais que le roi va me mettre à mort. Il va mourir à guillotine. Et puis, par pendaison plutôt. Puis, il va prier pour que le roi soit avec lui dans le ciel. » Quelque chose. Et là, il fait référence à Paul de Tarse, Saül, qui est témoin du meurtre d'Étienne, quand on met Étienne à mort. Et dans le texte des Actes des Apôtres, il y avait un jeune homme du nom de Saül de Tarse et qui était d'accord avec ce meurtre. Et Thomas More va dire, aujourd'hui, Paul et Étienne sont deux saints qui sont au ciel. Voyez? Et donc, Thomas More, il est conscient que le roi va le faire mettre à mort, mais il prie pour que le roi soit avec lui au ciel. Vous voyez, un témoignage de charité très grand, au point de désirer que celui-là même qui va me mettre à mort soit avec moi au ciel. Vous voyez, saisir les occasions, même les occasions difficiles, pour rendre témoignage de notre foi en Jésus. Je donne un petit exemple encore, vous savez, c'est facile de parler du ciel, vous savez, de la vie éternelle, quand on est en bonne santé. Puis des fois, ça me gêne un petit peu, ma santé est bonne, j'ai pas de problème. C'est facile de dire, vous savez, le ciel, ça existe, le royaume de Dieu, puis on va voir Jésus. Et des fois, je donne cette parole-là à des gens que je rencontre, qui sont malades, qui vont mourir, comme la dame dont je vous parlais. Je lui disais, Jésus a dit dans l'Évangile, « Je m'en vais vous préparer une place. » Et là où je suis, vous serez avec moi. C'est facile à dire pour moi, je suis en bonne santé. Mais des fois, je dis, j'ose espérer que le jour où je serai très malade, ça pourra venir moi aussi, d'avoir au cœur cette paix, cette assurance joyeuse. Oui, Jésus, tu m'as préparé une place et je serai avec toi pour toujours. Vous voyez? Et des fois, je reçois des témoignages de personnes comme cela, qui, au cœur même de la souffrance, de l'épreuve, de la maladie, donne ce témoignage joyeux. Vous voyez? Cette espérance. Bon. Alors voilà donc un petit peu ces trois aspects que j'ai mentionnés. J'y reviens, puis on fait une petite pause. Alors, donc, un fait, c'est-à-dire la souffrance, à cause de Jésus, pour rendre témoignage. deux attitudes maintenant importantes, celle de ne pas s'inquiéter, dit Jésus, faire confiance, puis après ça, l'Esprit-Saint parlera en vous. On fait une petite pause, on va chanter le chant à l'Esprit-Saint avant d'aborder ces deux aspects. Souffle de Dieu, sa vie se greffe aux âmes qu'il touche, qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Tournez les yeux vers l'autre intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'Esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'hôte intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Alors, je vois le temps qui passe et qui passe. Alors, donc, deux attitudes, puis en arriver au don de conseil quand même. Alors, première chose, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Donc, une première attitude. Vous savez, on rencontre des choses difficiles, des fois dans nos familles, dans notre société. Hein? Bon, on rencontre des choses difficiles, on a rendu témoignage, c'est pas toujours évident. C'est des fois, on se moque, la raillerie, bon. Bon, qu'est-ce que Jésus nous dit? Ne vous inquiétez pas. Et ça revient souvent dans l'Évangile, dans cette invitation à ne pas s'inquiéter. Alors, dans Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34, entre autres, Jésus va dire, « Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger et boire, hein, de ce que vous allez vous vêtir. Hein? » Non. Regardez, Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été revêtu comme les lys des champs. Bon. Ne vous inquiétez pas, nous dit Jésus. Ou encore, dans la tempête apaisée, qu'est-ce qu'il va dire? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Hein, pourquoi vous inquiétez? Ou encore, dans l'Évangile de Matthieu, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le prient? Donc, souvent dans l'Évangile, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter. Alors, au fond, il nous appelle à quoi? À faire confiance. Hein? Et là, je reviens dans l'Évangile de Matthieu. La première béatitude, c'est un appel à la confiance. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre de cœur, c'est qui? C'est celui qui compte sur le Seigneur, celui qui fait confiance. Donc, la confiance, c'est à la base de tout. Et ne vous inquiétez pas, nous dit Jésus, l'Esprit de votre Père. Alors, avoir confiance, pourquoi? Parce que Dieu est Abba, Dieu est Père, Dieu est notre Père. Et d'ailleurs, ça revient souvent dans l'Évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne. Ton Père voit dans le secret, ton Père voit dans le secret. Ah bon? Donc, aie confiance, Dieu c'est ton Papa. Il va te donner de bonnes choses. Pas nécessairement comme tu veux, quand tu veux, mais il va te donner ce qu'il y a de mieux. Et là, on est appelé à faire confiance. Moi, comme vous, il y a des situations, j'aimerais que ça se passe de telle façon, mais ça ne se passe pas comme je veux. Mais Seigneur, je te fais confiance. Alors, on est tous appelés à cela. Donc, l'Évangile nous rappelle cela. Et, bon, donc, et l'autre aspect, donc, la confiance est basée aussi sur le fait qu'on n'est pas tout seul. Jésus va nous dire, je vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, puis il sera avec vous pour toujours. Ah bon. Et là, vous avez dans l'Évangile, ne vous inquiétez pas, l'Esprit de votre Père parlera en vous. Alors, donc, j'en viens maintenant à ce don de conseil que nous avons reçu dans l'Esprit Saint. Oui, en recevant le Saint-Esprit, nous avons reçu tous ces dons et ce don de conseil. Saint Augustin disait, pour nous aider un peu à comprendre, c'est quoi le don de conseil? Saint Augustin disait, on court mal si l'on ne sait pas où courir. On court mal si on ne sait pas où courir. C'est un fait. Donc, le don de conseil, c'est l'Esprit qui va nous guider, qui va nous conduire, qui va nous diriger, qui va nous conseiller sur les moyens à prendre pour arriver à la pleine réalisation de nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu à notre fin dernière. Alors, donc, le don de conseil est à mettre, en fin de compte, avec ce don de discernement. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin beaucoup de discerner. Des fois, on prend des décisions un peu trop d'une façon hâtive, puis on s'en mord les pouces. Des fois, on subit toutes sortes de pressions, puis on prend des décisions qui ne sont pas heureuses. On a besoin actuellement de, comme on dit en anglais, quand j'étais avec les jeunes, « stop, look, listen ». Stop, arrête, look, regarde. Listen, écoute, prends une décision. Quand on commençait la retraite avec les jeunes, quand j'étais à Ottawa, c'était ça qu'on leur disait. On commençait stop, look, listen. Alors, donc, il fallait. Le don de discernement, le don de conseil, appelle ça de notre part. Savoir s'arrêter, regarder, écouter. Qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de me dire dans telle ou telle circonstance? Donc, un don de discernement, un don de discernement. Bon, il y a des ces moments spéciaux dans nos vies où on est appelé à vivre ce don de discernement. Bien entendu, ce don de conseil est nécessaire lorsque, dans une vocation, dans un engagement important comme le mariage, le don de conseil. Justement, je disais à des jeunes qui vont se marier d'ici un an, là, c'est bien beau la réservation de la salle, la réservation du service d'hôtellerie, puis tout ça. Mais votre préparation au mariage, c'est important. La préparation au sacrement de mariage. Vous voyez, ça va pas se laisser envahir par toutes sortes de choses qui sont importantes, oui, mais qui sont pas les plus importantes quand même. Vous voyez, on a besoin. Donc, on a besoin de ce conseil, de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies pour bien discerner ses engagements de vie, notre vocation. Ou encore, on a des fois des situations complexes, des situations difficiles. Alors, je pense, bon, quelqu'un se voit dans une situation d'un divorce. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, de nous dire dans cette situation-là? Il y a des situations des fois compliquées, complexes, et puis on ne sait pas trop où. Prendre le temps, dans la foi, de constater que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui va nous guider, nous éclairer. Mais aussi faire appel au don du conseil dans les choses concrètes, pratiques de nos vies. Moi, ça m'arrive souvent. Vous savez, quand on fait de l'accompagnement spirituel, on ne sait pas ce que l'autre va nous apporter, ce que l'autre va nous dire. Et puis, ce n'est pas comme une session ou un cours, on sait un peu ce qu'on va dire. On se prépare d'avance. Mais je ne peux pas me préparer quand quelqu'un vient me raconter quelque chose qu'elle vit. Qu'est-ce que je vais moi-même pouvoir apporter comme conseil? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là? Esprit Saint, guide-moi, éclaire-moi. Et des fois, il y a des personnes qui ne me savent pas, là. Ils me parlent, comme c'est arrivé cette semaine, j'ai rencontré des personnes, et puis là, elles me parlent des choses qu'elles vivent. Et là, Esprit Saint, éclaire-moi. Je sais pas, j'écoute. Esprit Saint, éclaire-moi. C'est important. Et ça vaut aussi pour vous. Vous êtes dans une situation, vous rencontrez votre voisin, votre garçon, votre fille, hein, vous rencontrez quelqu'un qui aurait besoin d'être un peu guidé, éclairé, conseillé. Oh, avant de commencer à lui donner des conseils, moi-même me laisser éclairer par l'Esprit. Me mettre dans une disposition, non pas d'imposer mon conseil, mais d'accueillir en l'action de l'Esprit Saint en moi pour pouvoir l'offrir, le présenter à l'autre. Vous voyez? Et ça, chacune d'entre nous, on est appelé à cela. Alors, moi comme pasteur, mais vous aussi, dans vos situations concrètes. Alors, faire référence à ce don, hein, à ce don de l'Esprit Saint. Maintenant, quand on vit de... Vous savez, pour bien discerner aussi ce qui vient de l'Esprit Saint, je fais souvent référence à ce qu'on appelle dans l'Épître de Saint Paul aux Galates, les fruits de l'Esprit. Alors, les fruits de l'Esprit, nous dira Saint Paul, c'est la charité, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la confiance dans les autres, c'est la bienveillance, c'est la serviabilité, c'est la maîtrise de soi. Et là, Saint Paul va énumérer comme ça des fruits de l'Esprit Saint. Alors, pour bien discerner l'action de l'Esprit dans nos vies, pour se laisser guider, conduire par l'Esprit Saint, regardons si ça produit les fruits de l'Esprit. Si ça ne produit pas les fruits de l'Esprit, il y a des grosses chances que ça, la décision ou la lumière que j'ai n'est pas la bonne. Alors que quelqu'un viendrait pour, je ne sais pas, quelqu'un vient pour prendre une décision. Bon, il veut rentrer au séminaire, OK? Il veut devenir prêtre, OK? Mais si ça engendre plutôt de l'inquiétude, il ne dort plus, il a moins d'appétit, il est inquiet, bien, je me dis, c'est bien beau de penser à devenir prêtre, mais je ne pense pas que ce soit l'action de l'Esprit Saint dans ta vie. Tu es appelé peut-être à autre chose. Parce que si ça vient vraiment de l'Esprit Saint, si c'est l'Esprit qui nous guide, qui nous conduit, il va nous donner aussi les fruits qui accompagnent cette décision-là qui est faite dans l'Esprit Saint. Vous voyez? Et ça, c'est une bonne façon aussi de discerner si ça vient de l'Esprit Saint ou non, tel ou tel conseil, telle ou telle décision que nous allons prendre. OK? Et ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, donc, cette importance des fruits de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors, les effets que, si on peut dire, des dons du don de conseil, il y a comme une tranquillité, une paix de la conscience qui nous délivre de tout tâtonnement. Si on a pris une décision qui est dans l'Esprit Saint, si on se laisse guider, conduit par l'Esprit, eh bien, ça nous élève, ces tâtonnements, ces troubles de l'esprit. Non. Alors, être conseillé par l'Esprit Saint, ça bannit l'anxiété, ça bannit l'agitation. Vous voyez? Parce que ça vient de l'Esprit Saint. Alors, un autre effet aussi du don de conseil, c'est que l'Esprit Saint va toujours nous guider, nous conduire vers quelque chose de plus parfait, si on peut dire, vers un chemin de sainteté, vous voyez, de notre sanctification. Donc, si ça vient de l'Esprit Saint, si c'est l'Esprit qui est mon guide, eh bien, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me conduire toujours plus vers un chemin de sanctification, de plus parfait. Vous comprenez? Alors, l'Esprit Saint ne peut pas me conduire en arrière. Il va me conduire en avant. Alors, ça aussi, c'est un aspect important. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? Un des effets du don de conseil, c'est qu'à un moment donné aussi, ça va nous aider à être bons conseillers pour les autres. Si j'accueille puis je développe ce don de conseil que j'ai reçu, eh bien, ça va m'habiliter moi-même à accompagner, à conseiller quelqu'un. Maintenant, quand on conseille quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on lui dit quoi faire. Hein? Moi, quand je rencontre des gens qui viennent en accompagnement spirituel, je leur dis tout le temps, c'est pas moi qui va dire quoi faire. Ensemble, on va se mettre ensemble pour essayer de voir qu'est-ce que l'Esprit-Saint veut de toi. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint est en train de faire dans ta vie. Alors, il faut faire attention. Donc, le don de conseil m'amène à me disposer à l'action de l'Esprit-Saint dans ma vie et prépare en moi être un conseiller pour les autres, pour les aider à discerner l'action de l'Esprit-Saint dans leur vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais leur dire quoi faire. Ensemble, on va se disposer à l'action de l'Esprit-Saint dans ta vie. On dit de Marthe Robin qu'elle est spécialement une femme qui bénéficiait d'une façon particulière de ce don de conseil. Non pas que Marthe disait aux gens quoi faire, mais des fois, elle leur posait une question. Puis je me rends compte, des fois, ça arrive moi-même dans l'accompagnement spirituel. Elle posait une question, puis les gens disaient, « Ah, j'avais pas pensé à ça. » Et à partir de la question qui était posée, il faisait un bout de chemin, puis, en fin de compte, la lumière venait. Mais la question, l'Esprit l'avait fait surgir dans le cœur de Marthe, elle l'avait tout simplement présentée à l'autre, puis l'autre, il l'accueille, puis là, il fait un bout de chemin là-dedans. Vous voyez, don de conseil. Mais tous, on est appelés à vivre de ce don de conseil et aussi à être bon conseiller pour les autres. Alors, des fois, ça va arriver. On rencontre quelqu'un qui est tout énervé, tout excité, tout anxieux. J'ai à me disposer à l'action de l'Esprit-Saint pour que je sois réceptif, réceptive de son don de conseil pour accompagner aussi l'autre dans cette œuvre de conseil. Et ça nous arrive souvent. On rencontre des fois des gens autour de nous. Ils sont nerveux, anxieux, ils savent plus toi. Faut-tu que je prenne ma pension ou non? Puis là, faut-tu que... Puis là, il y a l'agitation intérieure. Faut pas rentrer là-dedans, nous autres. Faut se disposer maintenant à l'action de l'Esprit-Saint pour pouvoir être un bon accompagnateur dans ce don de conseil, pour que l'autre aussi puisse s'éveiller à ce don de conseil dans la situation qui est la sienne. Ça va? Et maintenant, il y a sûrement, je termine avec ça, il y a des situations très difficiles dans le témoignage de notre foi à rendre. Vous savez, on n'a pas à convaincre les autres. On a à témoigner de notre foi. On n'a pas à les convaincre. On va rencontrer opposition, que ce soit au plan religieux, au plan civil, au plan familial, comme on vient de le voir, on rencontre opposition. Jésus dit confiance. Tout simplement, témoigner de ce que nous vivons dans l'Esprit-Saint, puis confiance. Confiance. Je n'ai pas à convaincre, j'ai à témoigner de ce que je vis. Vous arrivez dans la famille, puis des fois les gens vont se moquer. « Oh, moi là, moi je ne vaux plus ça, la messe de Noël, ça, je ne vaux plus ça, moi c'est fini. » OK, moi j'y vais. OK, puis ça finit là, j'y crois. Et avoir confiance. Que l'Esprit, lui, va aller plus loin, va faire porter plus loin le témoignage que vous allez rendre. Saint Augustin, puis je m'en sers de cette parole-là quand je prêche, « Moi, je vais parler à vos oreilles, un autre va parler à votre cœur. » Moi, je parle à vos oreilles, un autre va parler à votre cœur. Alors, quand on rend un témoignage, les autres entendent dans leurs oreilles ce que l'on dit, mais je suis convaincu que l'Esprit-Saint va faire porter dans le cœur ce que moi, j'ai fait entendre à leurs oreilles. Et je m'arrête là-dessus, parce que l'Esprit-Saint va continuer à faire dans votre cœur infiniment mieux que ce que j'ai pu dire à vos oreilles. OK? Alors, Jean-Claude, je pense que ça va, là? J'ai pas trop dépassé, là?
Oui, ça va.
Ça va?
Comme ça, s'il
vous plaît. OK. Bon. Là, je suis poigné avec un autre aussi. Bon. Je suis pas...